Vous connaissez l'adage « après la pluie, le beau temps ». Est-ce que vous croyez que ça peut s'appliquer au monde du travail ? Lundi au soleil, ça n'est pas un bulletin météo, c'est un podcast qui porte haut et fort la voix de celles et ceux qui pensent le travail autrement. Je me présente, je suis Tim Levert, cofondateur et associé de matribu.io, cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Tous les lundis, je reçois une personne qui a osé tenter de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de travailler, mais également des personnes qui imaginent le travail de demain et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait ? Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et Lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute ! Bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode du Lundi au soleil podcast aujourd'hui. Moi, c'est un petit kiff. Je reçois un invité pour la deuxième fois. Alors, c'est pas la première fois que je reçois deux fois un invité. C'est Jonathan Salmona. Il est reconnaissable par rapport à son bonnet qu'on voit sur toutes ses photos LinkedIn, entre autres.
Et ses chemises Pérave.
Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai, elle est presque neuve, cette
chemise. Ouais, celle-là.
Mais je crois que je t'ai rarement vu. Pourtant, on s'est déjà pas mal de fois croisé en dehors du podcast, bien évidemment, mais sans bonnet. Voilà. C'est un peu ton marqueur, hein, quand même.
Alors, en fait, ouais, on va parler SAP deux minutes, mais j'adore les bonnets depuis tout le temps. Et au début de ma carrière, je pense par mimétisme et conformisme, je l'enlevais, tu vois.
Ok. Et là, tu t'es dit, non, maintenant, c'est mon marqueur.
En fait, je me suis dit qu'il était temps bientôt 44 ans d'arrêter de se déguiser au taf.
Ouais.
Donc, j'aime les bonnets, je mets des bonnets. Et j'ai plein de bonnets bleus, en fait. Hein, parce qu'en fait, les gens pensent que j'ai qu'un bonnet, que je suis un gros crado.
C'est sale, en fait.
Mais non, c'est un affuseur.
Non, mais je comprends. Moi, j'ai longtemps vécu ce truc-là. Alors, pendant longtemps avec les baskets, parce que moi, je faisais un métier où tu n'avais pas le droit de porter des baskets pendant longtemps. Mais bon, bref, c'était quand j'étais jeune. Mais donc, je connais ce sujet-là. Et puis, les chemises hawaïennes, c'est pareil. On me fait encore des remarques quand je travaille et que les gens me disent, putain, tu portes des chemises hawaïennes, c'est un peu bizarre. Ouais. Ça fait slacker, ça fait Antoine, tu vois, Atoll les opticiens. Qui n'est pas sponsor cet
épisode. Ouais, mais tu t'en branles.
Je m'en fous complètement.
Bah voilà.
Exactement.
Moi, c'est pareil.
comment vas-tu ?
Eh bien, écoute, Tim, ça va très bien. Et je suis content de tourner ce revival un an et demi après.
Et putain, presque un an et demi après, c'était novembre 2022.
Ouais, c'est ça.
Ouais,
je revenais de Madagascar, je m'en souviens très bien.
Et oui, ouais. Tout à fait. Ouais, carrément.
Bah, le temps passe vite.
Autre studio, autre époque, on va dire. Et donc, c'est ça qui va être intéressant. Moi, je suis hyper content donc, de te recevoir. L'occasion d'échanger ensemble sur plein de choses. On va parler bien évidemment de Chaudeau. La dernière fois que t'es venu, moi j'avais une petite frustration, c'est qu'il y avait un goût de trop peu. Déjà, je me limitais vachement. C'était pas le début des épisodes, mais je me limitais vachement. Je me disais, il faudra que ça soit 40 minutes, plus de 40 minutes, les gens vont se faire chier. Aujourd'hui, si les gens s'emmerdent un peu, ils font avance rapide ou ils sortent de l'épisode, c'est pas grave. Et du coup, il y avait un certain nombre de choses qu'on n'avait pas abordées. On avait été très initiative opérationnelle et on avait peut-être manqué un peu de prise de hauteur. En tout cas, moi. Dans mes questions, j'entends bien évidemment, je veux pas. Et du coup, aujourd'hui, je me dis, c'est pas mal, c'est que déjà, on a envie de savoir si tu t'es bougé encore un peu plus les fesses et que t'es allé plus loin dans certaines notions, tu vois, bien évidemment.
Ouais.
Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième, c'est aussi, quelle est ta vision, effectivement, de l'entreprise aujourd'hui, de ce qu'elle doit être demain, ton apport dans la société. Voilà, est-ce que toi, tu t'estimes que t'as une action, un impact sur ce qui se passe actuellement aussi en tant que média, on va dire, tu vois. Et de porte-drapeau de l'entreprise un peu de demain, quoi. Donc voilà, c'est un peu ces sujets du jour.
Eh ben, allons-y, avec grand plaisir. Et juste, puisqu'on est quand même dans l'intro, je l'avais déjà fait à plusieurs reprises, mais je te remercie parce que grâce à notre première rencontre du lundi au soleil, on a rencontré notre associé de cofondateur de Chaudeau Lille, Nathan Castelin.
Ok.
Qui suite à l'épisode m'avait envoyé un mail genre magnifique.
Genre un peu dithyrambique et tout.
Non mais dans l'émotion
cool.
Vraiment canon.
Ouais.
Que j'avais partagé du coup sur le. À l'époque on était sur Google Chat Google Chat de la boîte.
Ouais.
Et en fait on s'est rencontrés, on s'est kiffé.
Coup de cœur,
et on a monté une boîte.
Génial.
Ouais.
Ils sont combien aujourd'hui à Lille?
Là, ils viennent de commencer, donc ouais, ils sont deux, mais ils sont en train de recruter leur premier membre. On a monté un binôme avec Alex.
De toute façon, c'est toujours le cas. On reviendra là-dessus. Ouais. Mais c'est toujours des binômes qui sont en partie associés et capitalistiquement
qui sont en intersociaux et qui détiennent 30% à deux. Ouais, tout à fait. On a fait ça. Enfin, bref, en tout cas, merci. C'était canon.
Putain, génial. Moi, écoute, je me souvenais plus de ça. Tu vois, j'ai la mémoire courte. Mais
ça fait partie des belles histoires du podcast.
Génial, écoute, ravi que ça ait pu marcher comme ça. Peut-être la prochaine fois, ce sera, on verra les Chaudot Lille qui viendra en interview.
On verra bien.
C'est pas une mauvaise idée. Aujourd'hui, on a pas mal de sujets. Tu sais, moi, j'ai toujours une trame assez établie.
Ouais.
Juste avant de commencer, on évoquait le fait que tu passais chez Baptiste Benzet, que je connais très bien, qui lui a peut-être moins une trame arrêtée comme moi. Moi, j'aime bien être rassuré. Et du coup, je voulais revenir sur un sujet qu'on n'avait pas évoqué la dernière fois.
Vas-y.
Un petit peu, on l'avait touché du doigt.
Okay.
Mais c'était le côté égalité des genres.
Ouais.
À l'époque, tu faisais des initiatives sur effectivement le congé menstruel et le congé parental.
Ouais.
Ça, on l'avait déjà évoqué.
Oui.
Depuis, il y a un concept de chororité qui a été développé et déployé chez Chaudot.
Ouais.
Concrètement, ça consiste en quoi, à part les initiatives quelle est l'ambition juste derrière?
Ok. Alors en fait, pour
reboucler
la boucle. À l'époque. Effectivement, quand j'étais passé sur le podcast, on en avait parlé parce que on venait avec Guillaume, donc que tu connais,
ton associé,
cofondateur.
Cofondateur.
On venait de valider des mesures d'égalité de genre pour leur rendre honneur. En fait, ces mesures, elles ont été pensées par un cercle féminin qui se réunit en non-mixité, donc qui s'appelle la chororité. La chororité, c'est la sororité version Chaudot, et qui, justement, s'est penchée sur tous les enjeux et tout ce qui peut permettre de féminiser Chaudot et par transitivité la tech.
Ouais. Ce qui est un gros enjeu, puisqu'en fait, aujourd'hui, c'est
majeur.
Pas du tout le cas quand même. Hein. Enfin,
en fait, il y a
quelques avancées, mais c'est un peu tendu. Quoi.
Bah, quand t'es comme... nous, un des piliers de notre modèle, c'est la justice sociale. Quand t'essayes effectivement de remettre de l'égalité et de l'équité dans la société, tu ne peux pas ne pas te pencher sur le fait que il y a pas assez de meufs dans la tech, surtout dans le dev, hein, parce qu'après en ESN par exemple, tu peux avoir une surreprésentation féminine dans des fonctions RH, des fonctions de com, etc. Néanmoins, dans le dev, ce qui est notre cœur de métier à nous, je crois que la stat c'est 17%. Nous on a commencé à mettre en place ces mesures là, on était même à la ramasse, parce que je pense qu'on avait 11 ou 13% de nous. Donc comme tu le dis, ce cercle là s'est penché sur une mesure phare, symbolique, qui est le congé menstruel, mais surtout a fait le constat que une des causes majeures du départ des meufs dans la tech, c'est la parentalité.
Ouais, bien sûr.
Donc il y a eu
qu'il y a un déséquilibre peut-être dans les couples, où effectivement peut-être qu'on parlait de charge mentale pendant
longtemps,
mais les femmes sont plus engagées effectivement dans la vie du couple, notamment avec des enfants.
Voilà. Et t'as tout à fait raison. Et donc c'est pour ça que les mesures qu'elles ont poussées et qu'on a validées consistaient à rendre obligatoire le congé paternité. Donc il est rendu obligatoire et financé, parce que du coup si tu le finances pas, c'est relou. Donc on l'a rendu obligatoire et elles ont mis aussi. Elles ont, pour encourager ce qu'on appelle le congé second parent. Donc le congé second parent, c'est quand la maman reprend le boulot, au lieu de confier le gamin ou la gamine
à assistante maternelle, la famille, à quelqu'un d'autre, etc.
En fait,
c'est pour le conjoint.
Pour le second parent. Donc statistiquement, souvent c'est un daron. Après, ça peut être aussi une daronne.
Oui, bien sûr.
Mais l'idée, c'est de se dire que le second parent va partager la charge mentale de la maman en s'occupant, donc du coup pendant un mois, de l'enfant, pendant que la maman reprend le boulot, se déleste d'une partie de la charge mentale. Et comme souvent, un des freins, c'est que monsieur a une perte de salaire, et souvent le salaire de monsieur est encore pour l'instant supérieur au salaire de madame. Nous on a mis en place, on a mis en place à leur initiative une mesure qui s'appelle la prime de maintien de salaire du conjoint, qui permet
De venir Et équilibré, en fait, voilà. Rééquilibré.
En fait, madame touche une prime équivalente au plus haut, plus haut niveau de salaire fixe de la boîte. Mmh. Donc, en gros, tu couvres le salaire jusqu'au plus haut niveau de salaire fixe de la boîte pour inciter les mecs à venir prendre leur part dans l'éducation, parce qu'on est en 2024.
Ouais,
et je pense que ça fait partie du chemin d'aller s'occuper de ses gosses. Mmh. Voilà, donc c'est ça qu'elles ont fait. On a rajouté depuis congé IVG, congé d'arrêt naturel de grossesse et plein de mesures qui permettent justement d'avoir un financement de
financement des coûts durs. Crèche aussi.
Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, on prend en place un financement des crèches d'entreprise. Ouais, tout à fait.
Alors moi, la question que j'ai là-dessus, elle est double. La première, elle est ça peut être un fil rouge sur toutes les initiatives que vous montez, moins ouais. sur les prises de participation, etc. Mais ça ouais. le sera sur les congés limités, les congés d'ancienneté, ce ouais. genre de choses. C'est qu'effectivement, et on en parlait un peu en off avant de commencer, mais ça a un impact financier. Donc, tu t'attends peut-être aujourd'hui en France à voir des groupes comme, tu vois, je sais pas, des groupes, hein, des ETI ou des grands groupes français, tu vois, déployer ce genre de choses. Puisqu'en fait, il y a une solidité financière derrière.
Ouais.
Sur une entreprise de la taille de Chaudeau, je ne dis pas qu'elle est toute petite ni rien, mais je dis que ces décisions ont un impact financier quand même relativement ouais. important. C'est engageant.
Carrément.
Comment se fait l'équilibre? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, vous allez devoir vous dire, en fait, il faut choisir entre une initiative plutôt qu'une autre parce que l'impact financier est trop important? Ou alors, à chaque fois, tu veux lancer une initiative, vous faites, par exemple, un business plan pour voir l'impact que ça a? Comment ça fonctionne?
Ouais, écoute, c'est intéressant comme question. Je pense que, on a une approche qui est à la fois rationnelle et à la fois intuitive.
Okay.
Moi, je suis un mec très intuitif et je pense que mes associés, ils ont un côté beaucoup plus rationnel que moi. Et
on parlait de cette complémentarité.
Voilà, on en parlait tout à l'heure,
évidemment.
J'allais te le dire. Et ça fait un bon mélange. Pour faire simple, le modèle de Chaudeau, en gros, qui englobe de la redistribution, la philosophie, c'est de dire que contrairement à des modèles plus traditionnels où tu redistribues à la fin quand il te reste suffisamment d'argent pour redistribuer. Nous, on a ancré la redistribution dans le modèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
c'est à nous. Ça veut dire quoi? Potentiellement derrière. Quoi.
Ça veut dire que c'est à la boîte d'aller chercher la croissance nécessaire à mettre en face pour être en capacité de redistribuer. Donc, tu redistribues en payant des salaires, parce qu'en fait, nos salaires, il y a une augmentation fixe, des fixes chaque année. Elle est ancrée dans la grille. On redistribue du temps libre dans des mesures inclusives dont on vient de parler. On redistribue du temps libre pour faire de la création de contenu marque employeur. On redistribue du temps libre un peu partout. Donc en fait, on essaye de faire en sorte que la transparence en fait des marges, ça permet aussi à dire à tes clients que parfois tu dois aller augmenter tes prix, mais tu l'augmentes à dessein, et en fait en expliquant à tes clients où va l'argent. Et je pense que ça remet vachement de confiance dans la relation avec tes clients, avec tes membres. Donc voilà, en gros, on prend des initiatives parce qu'elles nous tiennent à cœur. Tu vois, là moi je suis arrivé à la moitié de Hier, j'ai réalisé que ça faisait 20 ans que je bossais et que j'étais à la mi-temps de ma vie pro.
Ouais.
Tu vois.
Ouais, ça met toujours une petite claque.
Et ça m'a fait bader.
Bien sûr.
Enfin, ça m'a
sûr.
Fait bader. En fait, j'ai pas vu le temps passer.
Ouais.
Et dans la recherche de sens qu'elle amène depuis quelques années, je trouve que ce qui est important aujourd'hui, tu vois, c'est, enfin, pour moi, le chemin importe au moins autant que les résultats maintenant. Alors que probablement que dans une première partie de mon existence, je pense que comme beaucoup de gens, j'ai appliqué l'adage, tu vois, à la fin, justifier les moyens, quoi.
Ouais, bien sûr.
En fait, on a envie de faire ces mesures-là. On a envie d'essayer, tu vois, et de se mettre peut-être en position un jour de devoir faire ce que tu as dit, c'est-à-dire peut-être des arbitrages. Mais la transparence, c'est aussi de savoir expliquer que, tu vois, on parlait des congés d'ancienneté illimités. Peut-être qu'un jour, on dira, mesdames, messieurs, là, on arrive à 15 jours de redistribution supplémentaire. On n'est peut-être pas en capacité de financer le 16e. Pour financer le 16e, il faudra peut-être faire un trade-off sur d'autres choses. Mais en fait, j'ai envie d'être mis face à ce dilemme plutôt que de ne rien faire par immobilisme en me disant non, on n'y arrivera jamais. Tu vois?
Oui, et puis il y a un autre truc derrière, moi je trouve, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque tu as une ambition comme ça sur une entreprise, tu sais que c'est pas que c'est des concessions, mais tu sais que si ça a un impact financier, dans ces cas-là, si tu l'inscris nativement dans la mission de départ,
ouais.
c'est que les collaborateurs doivent se dire aussi, si nous on bénéficie, c'est pas en bénéficier davantage, si nous on vit au quotidien un truc qui permet, où il y a des initiatives qui sortent un peu de,
ouais.
de ce qu'on retrouve ailleurs,
ouais.
en fait, pour aller les chercher, il va falloir faire un effort complémentaire aussi.
Oui.
Mais c'est pas un effort si en fait collectivement ils sont ancrés dans le projet. Et...
Exactement. En fait, c'est du coup tu remets du sens dans le fait d'aller bosser, dans le fait d'avoir un projet collectif, dans le fait d'aller chercher de la croissance. Tu la remets. Tu vois, moi j'aime bien dire ça parce que je trouve que c'est assez imagé. Tu remets la croissance au service des gens. Donc, aller expliquer demain, tu vois, je reprends mon exemple des congés limités. Les gars, en fait, pour aller financer le 16e jour, peut-être qu'il faut, au lieu de rapporter 25 000 euros par an, l'année prochaine, il faut peut-être en rapporter 27.
Ouais.
En fait, tu remets de la gouvernance un peu partagée parce que peut-être que les gens vont dire John et Guillaume, c'est cool, mais en fait, nous, 15 jours, ça nous va bien. On a peut-être pas envie. Enfin, ok, on s'arrête là. En fait, c'est une volonté de tout le monde. Donc, on va le faire.
Alors, moi, juste là-dessus, je reviens sur un truc que tu disais un peu plus tôt, mais je veux pas faire le parallèle avec la famille, mais un peu quand même. Moi, par exemple, avec les enfants, il y a un truc que c'est ma femme qui m'a appris ça, c'est une vieille sage, hein, moi, ce n'est pas mon cas. Elle m'a dit la relation avant le résultat, tu vois. Et grosso modo, elle me dit, quand je bosse avec eux, moi, j'ai aucune patience. Et je fais le parallèle par rapport au management. Et quand tu diriges une entreprise, c'est tu dis, en fait, je suis pas prêt à pourrir ma relation pour avoir un résultat sur une note, une compréhension d'un truc, etc. Dans l'entreprise, est-ce que toi, aujourd'hui, avec Shadow, t'es sur de la relation avant le résultat?
Moi, je suis super en phase. Je te dis, le chemin importe autant que le résultat. Peut-être que je te dirais même le chemin avant le résultat. Et en fait, tu vois, moi, je suis convaincu que tu vois, ta croissance de chiffre d'affaires ou de marge, c'est une conséquence de tes choix.
Bien sûr.
Parce que je suis convaincu que à partir du moment où t'as des gens qui sont bien dans leur basket, ils vont performer au boulot. Donc, si tu veux avoir des résultats parce que t'en as besoin ou parce que t'es convaincu que c'est le sens de l'histoire, bien sûr qu'il faut privilégier ta relation. Et tu vois, le corollaire de tout ça, c'est que moi, je suis sorti d'école de commerce avec en tête l'idée que les deux métriques principales, c'était, tu vois, ta croissance d'EBITDA ou ta croissance de chiffre d'affaires.
Bien
aujourd'hui,
sûr.
J'en suis revenu. Et je suis convaincu que l'indicateur numéro un d'une boîte, c'est le turn.
Ouais, bien sûr.
En vrai, si t'as pas de turn, ou si t'as le moins de turn subi possible, mais obligatoirement, t'as des résultats en termes de CA et de marge. Obligatoirement.
Ouais, alors j'irais. Un détail près, c'est que je dirais que c'est taux de fidélisation dans l'autre sens.
Oui.
C'est le gel verre d'eau à moitié plein. Et je me dis, en fait, nous, il y a 90% des gens qui restent chaque année, etc. Je trouve que c'est. Je suis d'accord, c'est un indicateur qui est. Quanti et Cali, en fait, sur lequel, effectivement, moi, je vois des boîtes qui sont un peu prêtes à transiger. Et je reviens, je l'ai raconté 50 fois, cette anecdote, et elle est un peu moisie maintenant, mais il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, mais chez nous, on a un turnover de 30%, et en fait, c'est mécanique, et on n'arrivera jamais à le réduire. Et en fait, moi, j'ai fait, en fait, non. C'est-à-dire que si tu pars battu d'avance, je veux dire, c'est un peu mort. Et puis, tu considères pas que dans un secteur en particulier, ou dans une activité en particulier, le truc est comme ça, et puis point barre, quoi.
Non, mais si tu veux, moi, ça me parle vachement, parce que 30%, c'est le turnover moyen de mon secteur à moi, secteur des ESN.
Bien
et
sûr.
Et moi, j'ai été dirigeant salarié d'une ESN. On n'avait pas un turnover de 30%, mais on avait probablement un turnover entre 20 et 25, ce qui reste déjà quand même coquin.
Ouais.
Et à la fin, au bout du bout, quand tu finis avec des résultats de CA, de marge, ou même toi, tu t'es tiré un salaire qui est coquin, la conclusion, c'est que tu as réussi au détriment des autres. On est en phase et je suis en phase avec madame Tim.
Parfait, écoute, je lui passerai le message. Je suis sûr qu'elle sera ravie en plus. Autre sujet, petite anecdote. Alors moi, je ne sais pas si tu sais, mais je déploie la Fresh Marque Employeur, qui est une Fresh
si, je sais. J'ai suivi, ouais.
De la fresque du climat. Bref, on n'est pas là pour faire du public reportage. Mais en fait, si tu veux, un jour, c'était il n'y a pas très très longtemps, c'était il y a une quinzaine de jours, peut-être trois semaines, je ne me souviens plus. Ouais. J'étais chez un client, on fait une fresque. Et donc, si tu veux, c'est un moment d'intelligence collective et d'idéation sur ce qu'ils veulent vivre, ce qu'ils vivent aujourd'hui, ce dont ils sont conscients aussi, les, ouais. Et ce dont ils sont pas au courant, et ce qu'ils ont envie de vivre demain. Et dans un des trucs où c'était ce que vous voulez vivre demain, je sais pas, c'était pas forcément une boîte de gens plutôt âgés, etc. Il y en avait qui étaient parents, il y en avait qui étaient pas parents, etc. C'était même pas ça le sujet, mais il y en a un qui me dit, bah, voilà, en fait, ils se mettent tous d'accord, ils bossent par petits groupes, ils disent, nous, on aimerait bien qu'il y ait... Il y a quelque chose dans la boîte qui nous facilite un peu la vie, quoi. Genre, putain, les machines, quand tu déposes tes fringues chez le teinturier, ouais. Tu vois, les cartes bleues, parfois aller chercher les gosses à l'école, j'en ai aucune idée.
Le service à la personne, quoi.
Le service à la personne, exactement. Ouais. Et à un moment donné, il y a ce mot qui tombe et il dit, non, mais il y a un mec qui fait, non, mais attendez, je veux pas faire... Il y avait un peu ce côté, il osait pas trop dire, il fait, c'est les trucs que tu peux retrouver avec les cartes, mais le truc d'un peu de conciergerie, quoi, et tout, machin. Et moi, j'ai trouvé que c'était... Je suis toujours assez surpris de la capacité du collectif à trouver des idées comme ça. Et souvent, ils disent... Ah, ils se limitent un peu, ils se disent « Ouais, mais ça va être un peu compliqué, etc. » Bref, pour en revenir à toi, je crois que t'as, ce truc-là, il existe,
ouais, il existe
chez Chaudeau.
Ouais, il existe.
Ça vient d'où et comment ça se matérialise concrètement ?
Je vais peut-être te faire une réponse super chelou, mais en fait, je vais te faire une réponse autour des cinq langages de l'amour.
Ok, d'accord.
Et en fait... Donc, dans les cinq langages de l'amour, t'en as un, c'est les services rendus.
Mmh.
Et en fait, ça, c'est une idée de mon sosse Guillaume, parce que je pense que son langage de l'amour, c'est ça. Ouais. C'est les services rendus. Donc, en fait, il a mis en place... Attends, en plus, je suis en train de te faire une séance de psy gratos, là.
Bien sûr.
Mais en fait, il a eu l'idée de mettre ça en place pour nos membres, justement pour leur faciliter la vie. Enfin, tout ce que t'as dit, etc. Et en fait, je pense pas qu'il y ait. Je pense qu'il y a plein de manières de faire kiffer ses membres. Tu vois, moi, le mien, en tout cas, mon langage de l'amour professionnel, parce que c'est pas mon langage de l'amour individuel.
Mais bien sûr.
Mais mon langage de l'amour professionnel, à moi, c'est les moments, de qualité.
Ok.
Donc en fait, moi, je suis un fan absolu des séminaires,
des moments de cohésion, des moments d'échange.
Des moments de kiff, de petites bulles. Tu vas te créer une petite bulle professionnelle où tu vas partager des choses avec tes collègues associés, etc. Parce que je trouve que, tu vois, au bout du bout, personne ne se souviendra du CA ou de la marge qui a été faite il y a 5 ans, parce qu'en fait, on s'en balèque.
Ouais, bien sûr, c'est pas le sujet.
Enfin, on s'en balèque. Pas que, mais en tout cas, pour moi, c'est pas prioritaire. Moi, ce qui est prioritaire, c'est de se créer une machine à souvenirs, tu vois, où tu te dis, voilà, en fait, il y a 3 ans, on était à tel endroit, on a partagé telle ou telle chose, ça te fait remonter telle émotion. Et je module et je tempère le fait qu'on s'emballe avec des résultats. En fait, non, on s'emballe pas. Il y a quand même une forme de crédibilité dans l'histoire entrepreneuriale que tu racontes qui tu peux pas te permettre de raconter une histoire en mode YOLO, on part en séminaire et on est négatif tous les ans.
Ouais.
Donc, on est quand même obligé d'avoir cette forme de crédibilité, de street cred en ne perdant pas d'argent.
Oui,
mais ce que j'ai construit, c'est en fait, t'en es pas là pour en gagner le plus possible.
Oui, mais alors attention, parce que tu peux partir aussi en séminaire tous les ans en disant YOLO, on s'éclate, et que les collaborateurs, ils disent putain, c'est de la merde, on se fait chier.
Je suis d'accord. Mais bon, en vrai, t'as vu, je pense que quand tu pars en séminaire, t'es quand même un peu sur le bon chemin pour t'éclater.
Bien sûr. Et du coup, toi, c'est en fait cette notion de conciergerie, il y avait, je parle sous mon contrôle, mais il y avait le fait de se dire souvent dans les boîtes.
Ouais.
Il y a quand même un truc, c'est que moi je lui dis ça parce que je l'ai longtemps vécu, mais c'était quand j'étais chez Havas, typiquement quand tu devais réserver un billet de train, putain, c'était j'envoyais 4 mails différents, ça prenait 3 semaines machin, et à la fin je terminais par dire ok, laisse tomber, j'allais à l'époque il y avait des boutiques SNCF, je passais avec mon scooter, tu vois, je roulais avec un scooter, une poubelle, je te raconte pas, et je prenais mon billet et je faisais une note de frais parce qu'en fait c'était plus rapide, et finalement ça me prenait un quart d'heure ou 20 minutes dans ma journée à la fin de la journée, mais c'était pas grave. Et en fait, toi, il y a ce sujet de se dire comment j'enlève cette charge pour qu'ils puissent se concentrer plus sereinement sur leur taf et pour, je sais pas, réserver un billet, une bouffe pour aller au resto avec un client, un truc comme ça ?
Ouais, la philosophie, c'est de se dire, au boulot, on est toutes et tous là pour se concentrer sur notre cœur de métier.
Mmh.
Donc en fait, que tu, chez nous, que tu sois dev, que tu sois staff ou que tu sois CEO, tu as un cœur de métier et on a fait en sorte de se dépolluer la tête de tout ce qui est accessoire. Donc la conciergerie, c'est ça, effectivement, c'est, ça te permet d'aller gérer des billets de train, des réservations d'hôtels, de restos, de ce que tu veux, où tu as oublié je sais pas quoi chez toi, où tu as oublié les clés, etc. Tu fais venir un coursier et tu te prends pas la tête, tu vois, c'est facturé sur la boîte, etc. Dans la même veine, tu vois, on a mis à disposition une CB d'entreprise à tous nos membres parce que en fait, ça permet à tout le monde de piloter ses dépenses professionnelles de manière optimale, efficace, sans passer par des circuits de validation affreux.
Ouais, c'est galère pour quelqu'un d'avancer aussi peu, un collaborateur. Il n'a pas envie d'avancer. C'est chiant. Quoi.
T'as raison. Ça, c'était une des raisons principales. C'est en fait, on voulait pas que les gens payent pour travailler. En fait, c'est un peu ça quand même.
Mais en fait, on ne crée pas le réflexe non plus.
Voilà, et on voulait surtout que les gens soient autonomes pour, si tu veux, en fait, tu vas expliquer quelles sont les règles de l'URSSAF. Tu fais grandir les gens et à partir de ce moment-là, tu les laisses gérer toutes les dépenses de matos, d'équipement à la maison pour s'équiper en remote avec, je vois du mobilier, des chaises, des écrans, du soft, payer des restos à leurs clients ou à leurs collègues ou je ne sais quoi. Mais en fait, tu vois, on est là pour, on est là pour libérer les gens.
Oui, et puis et dans les faits, finalement, moi j'ai rencontré beaucoup de gens. Je dis pas que j'ai un réseau en béton armé, mais j'ai quand même un réseau assez élargi. J'ai finalement, c'est même pas marginal, je crois que c'est inexistant. Si, mais j'ai jamais rencontré de gens qui m'ont dit on s'est fait arnaquer par un collaborateur qui a fait plus de dépenses. En fait, à un moment donné, je crois qu'il y a quelqu'un avec qui j'ai bossé, un entrepreneur, il m'a dit ouais, dans l'eau, il y a probablement un ou deux mecs, tu vois, parce que, et c'était même pas des nanas d'ailleurs, c'était vraiment, il y a bien un ou deux mecs qui ont dû acheter ou qui ont fait des déj avec leurs potes. Mais il me dit en fait, je m'en fous. Mais parce que le truc, c'est que de toute façon, ils se sont fait un déj kiff et ils se disent bon bah la boîte m'a payé un déj à 200 balles et puis
exactement.
C'est pas grave.
En fait la réponse à tout ça c'est est-ce bien grave? Est-ce bien grave que
non mais
que Jane se soit tu sais ait pris deux desserts à son dernier déj client ou que John je sais pas se soit trompé ou ait pris un supplément foie gras sur son steak sans pavé Rossini. En fait on s'en fout.
Oui c'est pas le dire.
Tu sais, ça a été théorisé par un gars qui s'appelle Gordon Forward, qui te parle de la règle des 3%. C'est-à-dire qu'en fait, dans chaque organisation un peu libérée, tu as toujours 3% des individus qui vont se comporter de manière pas constructive, quoi. Tu vois, toxique, on va dire. C'est jamais les mêmes personnes en fonction des sujets.
Ouais, bien sûr.
Mais en fait, tu as toujours le choix, soit de prendre le seum et d'aller mettre en place des actions coercitives, mais qui vont faire chier les 97% des gens qui jouent le jeu. Soit te dire, vas-y, laisse pisser, c'est pas grave. Et tu vois, dans le cadre de la CB, alors en fait, tu vois, on est sur Conto, t'as quand même ta matière pour monitorer les dépenses, etc.
Ouais,
mais en fait,
on
passe pas notre
tracking,
temps.
Faut quand même...
On passe pas notre temps, tu vois, avec Guillaume, etc. En vrai, je dis la vérité, je mets jamais mon nez dedans. On va pas regarder quelles ont été les dépenses. Probablement que si on faisait.
Non, mais tu vois, trouverais une ou deux.
Même, tu sais quoi, à l'échelle du groupe, on trouvait 5000 boules. Mais est-ce que 5000 boules, c'est quelque chose de grave à l'échelle de ta boîte quand probablement ça fait kiffer tout le monde.
Non, mais en fait, voilà, moi je trouve que l'impact de l'autre côté sur à la fois la capacité d'autonomie, la responsabilisation et la notion in fine de confiance, c'est-à-dire de dire, en fait, peut-être qu'il se passe ça, et d'ailleurs, c'est pas de communiquer ça, c'est de dire on vous fait confiance, allez-y. Je trouve que là, du coup, t'es dans un cercle complètement vertueux, donc ça c'est intéressant. Je vois l'heure qui file, j'enchaîne, je nous connais, sinon on est là jusqu'à 18h. autre sujet, il paraît que de 2022, la première fois on s'est rencontrés en novembre, jusqu'à quasiment fin 2023, début 2024, il n'y avait pas de DRH chez Chaudeau.
Ouais, je te confirme. Tout ça pour te dire que là, début d'année, on a eu plaisir d'accueillir Émilie Fru.
Ok. Émilie, nous te saluons.
Ouais, salut Émilie.
Bienvenue chez Chaudeau.
Et en fait, Émilie nous a contacté en fin d'année dernière. Émilie bossait chez un de nos clients. Et en fait, elle s'est créée l'opportunité parce que, tu vois, on n'avait pas prévu de recruter une head of HR.
Ah ouais, c'était pas dans le pipe.
Non, c'était pas dans le pipe. Et en fait,
c'est quand même un bouleversement à la fois administrative, à la fois aussi en termes de philosophie, de mentalité quand même.
Ouais, alors enfin tu vois, déjà son titre c'est pas DRH et elle est pas là pour tu vois apporter une vision. Tu sais, c'est pas le bras armé de la direction. Tu vois, okay. Comme ça peut être le cas avec certains.
Oui, oui, bien sûr. Tu vois.
Non, non, elle est là. En fait, nous, on est dans une logique aujourd'hui de passage à l'échelle. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mmh. Mais dans la logique de passage à l'échelle et de manière générale, je trouve, dans l'entrepreneuriat, une des clés, c'est de savoir déléguer. Mmh. Grosso modo, avec Guillaume, on essaye de se virer le plus possible des sujets sur lesquels nous sommes dispensables pour conserver les sujets qui nous font kiffer. Et surtout les sujets sur lesquels on est encore indispensable. Mmh. Et aujourd'hui, Guillaume, il n'avait pas de backup sur notre cœur de métier. Tu vois, dans le binôme, lui, il avait dans son giron tous les aspects RH, mmh. juridiques, aussi
il financiers. Il fait un peu moins 5 pattes là-dessus.
Quoi. Ouais, et en fait, tu vois, moi j'ai pu aussi beaucoup me reposer sur Lucie, qui est notre head of sales. Donc ça m'a libéré du temps. Mais lui, il avait pas ce binôme là, donc Émilie est venue apporter ça, et elle apporte surtout aussi un rôle d'expert métier auprès aussi de tous les autres mandataires sociaux du groupe. Mmh. Parce que tu vois, dans notre modèle à nous, on peut pas se permettre d'avoir un staff de ma boule, donc en fait on est obligé d'avoir des coûts qui sont minimaux, et c'est important du coup quand dans un binôme t'as un dev, mmh. et un profil souvent c'est des ex-profils sales, bah, d'avoir une experte du RH qui vient t'accompagner, t'aider à prendre des bonnes décisions sereines.
Oui,
c'est ça l'idée, quoi.
Au-delà de l'aspect juge de paix, elle sert de guide un peu, ouais. Sur effectivement, parce qu'en fait les typologies de structures que vous avez, ceux qui ne connaissent pas Chaudeau, c'est qu'en fait il y a bien évidemment Chaudeau qui est la maison mère parisienne, mais après il y a effectivement des binômes qui sont créés dans d'autres villes.
Dans des filiales.
Il
ouais.
y a cette ouais. espèce de. C'est une structure assez moléculaire finalement.
C'est très moléculaire. Alors initialement c'était pensé pour avoir un système de maison mère avec des sociétés filles, donc des filiales. Et là on arrive à un fonctionnement plutôt avec des sociétés sœurs. Donc ouais. Une des réflexions du moment, c'est comment est-ce que on peut remettre notre organisation en conformité, mmh. Tu vois, plutôt avec une holding opérationnelle avec tu vois des fonctions support, ouais. Deux CEO groupe, donc Guillaume et moi. Bon bref, hein, c'est les réflexions du moment, et effectivement on est là pour apporter au sein de chaque filiale une expertise sur tous les sujets importants de l'entrepreneuriat, sachant qu'en plus on va se reposer sur cabinet d'avocat,
ouais, bien
cabinet
d'expert comptable. Toujours eu, je me souviens voilà. de la fameuse anecdote avec ton avocat
ouais,
de l'époque.
Ouais, ouais, tout à fait. Et même aujourd'hui, on bosse avec Jess qui joue le rôle de responsable admin qui est presta, mais qui nous apporte énormément de valeur et que je salue aussi.
Bah, salut Jess. Pour revenir à la DRH, je ouais. me dis à quel moment c'est quoi le un peu le tipping point, un petit anglicisme, où grosso modo tu t'es dit j'en ai pas besoin, mais finalement on est en train de construire plein de boîtes, etc. Et en fait elle arrive et elle te dit écoute, moi je vous connais parce que vous on faisait partie de vos clients, je vois comment vous fonctionnez. Ça va pas être scalable, ou alors le passage à l'échelle va mal se faire, etc.
Non, mais
je suis curieux de savoir comment elle a amené le projet, tu vois ce que je veux dire.
En fait quand l'opportunité est là, tu te poses la question, tu vois, tu fais un arbitrage, tu sais, on se dit, bah, quand même, elle a un profil qui est canon.
Ouais.
Peut-être que, tu vois, nous, je pense qu'elle est arrivée dans notre roadmap, elle est probablement arrivée un an trop tôt.
Ouais.
Mais en fait, tu te dis, bah, dans un an, si elle est plus dispo.
Ouais, c'est ça, bien sûr.
On va se démanger. Ouais. Et en fait, on s'est dit, ok, bah, ça fait partie aussi parfois, tu vois, je pense que quand t'es entrepreneur, tu dois savoir pivoter. Mmh. Et donc, on a, la réflexion, on est allé voir dans le CODIR, on est allé voir tous nos associés mandataires sociaux des filiales, et on leur a dit voilà, en fait on a la possibilité de faire venir Émilie, ça va être un investissement pour le groupe, mais en vrai c'était aussi ça le trade-off. On dit en fait Émilie, elle sait faire de la prod, Elle va dans chaque lancement de filiale probablement vous faire gagner du temps en allant chasser 3-4 profils supplémentaires qui vont rapporter du cash, qui vont tous vous faire gagner peut-être 6 mois de développement commercial. Donc en fait ça vaut le coup, vous allez gagner en sérénité, vous allez gagner aussi en vitesse d'exécution. Donc c'est comme ça qu'on a tous et toutes pris la décision, sachant qu'après nous on a un modèle comme tu le sais, c'est que au début effectivement on fait de l'outbound, mais à vitesse de croisière on fait de l'inbound, c'est-à-dire que le recrutement se fait sans recruteur, recruteuse, sans cabinet de chasse et même sans approche directe. Mais au début c'est sûr que tu arrives, tu vois, je pense à nos amis de Lillois. Ils arrivent, donc effectivement, Chaudo commence à avoir une certaine reconnaissance. Néanmoins, t'es quand même content d'avoir quelqu'un qui va t'aider à faire de la prod.
Ouais, bien sûr.
Pour aller recruter tes premiers membres.
Ouais, clairement, clairement.
Ouais, c'est ça, ça a été ça finalement, tu vois, pour répondre à ta question.
Oui, puis c'est une charge, on parlait de charge mentale aussi, c'est une charge peut-être d'entrepreneur quand t'es à Lille et de te dire, en fait, j'ai quelqu'un qui vient m'épauler aussi, quoi.
Et puis, tu vois, le dernier point, moi, je trouve que c'est canon aussi d'avoir dans ton board des profils qui viennent d'une autre culture. Parce que nous, la plupart d'entre nous, on se connaît depuis longtemps. Et quoi qu'il se passe, tu commences à développer une forme de consanguinité de la pensée. Et moi, je suis content quand on s'est un peu rentré dedans avec du coup des visions, des réflexes un peu différents. Ça nourrit, je trouve, la contradiction. Et il n'y a rien de tel que la contradiction pour pouvoir aller chercher un compromis qui fait sens pour tout le monde.
Ouais, et alors, et y a un truc dont je me suis rendu compte l'autre jour, parce qu'on a organisé le goûter donc avec Baptiste, avec qui tu étais hier, et Delphine Zanelli.
Salut Baptiste.
Et en fait, si tu veux, on avait une cinquantaine de DRH devant nous, et une population, je crois, quasiment exclusivement féminine. Tu parlais tout à l'heure, tu vois, il y avait des fonctions type marketing et des DRH en font partie. Et je me dis, et ça, en fait, alors moi, je sais pas vraiment répondre à cette question-là. Je vais avoir des théories complètement fumeuses en me disant, en fait, c'est les métiers que les hommes veulent pas parce que c'est finalement des métiers qui nécessitent soit qui sont un petit peu plus durs entre guillemets parce que tu te frottes quand même à des choses plus complexes, soit des métiers qui nécessitent plus d'intelligence émotionnelle peut-être aussi. Alors tu vois, attention, je veux pas caricaturer non plus, mais c'est vrai que ces métiers-là, finalement, sont des métiers qui sont souvent peut-être à part dans les grands groupes et encore moi ça fait quand même 2 ans j'ai une activité qui est vraiment autour des RH, j'ai pas croisé beaucoup d'hommes, quoi, tu vois.
Bah t'en as croisé un quand même, puisque mon sos Guillaume c'est un profil qui aurait probablement évolué vers ce type de fonction à terme. Bah,
j'ai croisé lui et je crois et quelqu'un et le DRH du groupe Cresc, donc qui est filmé d'SVR, ce genre de choses. Mais sincèrement je les compte sur les doigts de une main deux mains sur les 300 que j'ai rencontrés, peut-être plus que ça, 500. Et en fait, ça, moi, je n'ai pas de réponse là-dessus, mais j'ai un vrai questionnement parce que j'ai du mal à comprendre. Mais bref, ma question n'était pas forcément là. Ma question, c'était plutôt de dire, tu vois, tu parlais de cette personne, cette DRH, elle n'a pas une posture classique. Tu sais, moi, j'ai de batailler contre le DRH qui vient de voir parce qu'en fait, il a une remarque de merde à te faire, et le DRH, tu vas le voir parce que toi, tu as une remarque de merde à faire en lui disant, il y a un truc qui ne va pas. La posture de cette personne chez vous, tu en as parlé un peu, mais tu as dit, ce n'est pas le bras armé, mais c'est quoi la bonne posture d'un RH? C'est très indépendant, il répond au COMEX, mais vice-versa, le COMEX doit lui répondre aussi, et pareil avec les collaborateurs. Il est où, en fait?
Écoute, en fait, je sais pas si je suis vraiment légitime pour en parler, parce que moi, c'est vraiment... Alors déjà, moi, j'ai fait 20 ans de carrière en ESN. Je pense qu'il est probablement un des secteurs où la fonction RH est la moins bien valorisée.
Ouais, bien sûr.
Ok.
Ouais.
La fonction qui détient tout pouvoir, c'est la fonction commerciale en ESN.
Ouais, complètement.
Et en fait, les RH ou les DRH, à de très rares exceptions près, ont peu de contre-pouvoir et ont plutôt tendance à justement être le bras armé de la direction. Moi, je l'ai découvert à mes dépens, dans mon ancienne structure. Maintenant, moi, je trouve que... ma vision à moi, c'est qu'effectivement, dans l'idéal, tu vois, je t'ai dit tout à l'heure que pour moi, l'indicateur, si il devait en rester qu'un, ce serait le turnover. Et donc, pour moi, le ou la DRH devrait avoir un rôle de contre-pouvoir en étant capable de dire, bah, en fait, là, mon turnover, il augmente, on est en train de faire de la merde.
Ouais.
Et donc, pour moi, ça devrait être une ou un lanceur d'alerte capable d'aller remonter des messages désagréables aux dirigeants. Ou aux membres du board. Et c'est là que après bah t'as besoin justement d'avoir une culture qui te permet de remonter du feedback négatif. C'est pas naturel si tu veux de tu sais quand t'es dirigeant, dirigeante, de te prendre des feedbacks négatifs.
Ouais.
Un, déjà toi en vrai tu préfères avoir des compliments.
Ouais,
et de
bien.
Deux, tu vois quand moi je me mets dans la peau d'une collaboratrice ou d'un collaborateur qui vient te remonter un feedback, ben en fait dans son putain de cerveau reptilien, c'est pas la norme. Ton cerveau reptilien, il est là pour te préserver, donc il est plutôt là pour te pousser à faire de la flatterie d'aller remonter du feedback négatif. Et donc pour moi c'est dans ta culture, tu dois faire en sorte que tout le monde soit en capacité d'être doux avec les hommes, mais dur avec les idées.
Ouais, complètement. J'aime bien cette notion de DRH, c'est un lanceur d'alerte. Je pense qu'il y a encore plein de choses derrière, mais je trouve que c'est une bonne. J'aime bien, j'ai m'accaparé bien évidemment cette citation.
Vas-y, reprends.
Et alors, petite anecdote drôle, moi j'aime bien les anecdotes un peu pourries, tu sais.
Ouais.
Mais là, celle-ci ne l'est pas. Elle n'a pas fait. Elle n'a pas eu période d'essai.
Non.
Pourquoi?
Bah parce que on a supprimé la PE par défaut de nos contrats, je dirais il y a 3 ans maintenant.
Ok.
Et pourquoi? Parce que grosso modo, nous on recrute à 90% des devs, en tout cas des profils tech, et on est arrivé à la conclusion que, en tout cas dans notre secteur, la PE précarisait inutilement. Pour faire simple, quand le marché va très bien, on peut placer facilement. Alors, je mets des gros guillemets, mais des mauvais devs, sans problème en tant que tel. Parce que je connais très peu, en tout cas à Paris, de devs au chômage. Voilà. Enfin, c'est souvent des gens qui font le tour du monde, tu vois.
Ouais.
Et par contre, on s'est dit que, alors, autant elle a du sens probablement dans d'autres corporations, autant dans la nôtre, bah, en fait, elle précarise parce que, tu vois, elle t'empêche de changer d'appartement. Quand t'es daron, daronne célibataire, tu vas te dire, est-ce que je vais changer de boulot, tu vois, enfin tu sais, c'est précarise quoi, je peux pas te dire autre chose,
ouais, hein,
c'est le bon résumé.
Non mais c'est cette notion de précarisation, je trouve qu'elle est importante, parce que quand je le disais, je me disais, en fait il y a une notion de confort, mais là on n'est plus dans le confort, on est dans la précarisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné tu peux te dire, tu parlais d'appart tout à l'heure etc, mais c'est vrai que c'est, alors oui, c'est un filet de sécurité important qui peut l'être à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour le collaborateur qui dit, en fait, moi, c'est ce que j'avais fait un jour quand j'étais dans une agence de pub il y a très longtemps et que j'avais renouvelé ma période d'essai. Le mec m'avait dit, mais attends, pourquoi on ça s'est jamais vu? J'ai dit, mais en fait, je sais pas si c'est la bonne boîte pour moi. Mais après, de l'autre côté, c'est vrai que.
Mais ça, je te réponds sur le filet de sécurité collaborateur, parce qu'en fait, ça, c'est, tu vois, nos contradicteurs nous balancent toujours cet argument-là. Moi, je t'ai dit juste, regarde un truc. Chaudo, on fait de l'inbound, donc on produit suffisamment de contenu marque employeur de qualité, social, sociétal, tech,
pour faire
en sorte que celles et ceux qui postulent chez nous, au moment où ils vont postuler, aient déjà une connaissance très fine de la boîte.
Ouais. Ils savent à quoi s'attendre, voilà. Et ils ont une...
Tu nous connais.
Proche de la réalité,
voilà.
Quoi. Ouais.
Après, quand je t'ai dit qu'on a retiré la PE de nos contrats par défaut, la loi nous oblige à en mettre une à quiconque on demanderait.
Ah oui, c'est ça, oui, tout
ça. Ça, c'est la loi. Donc, on peut pas, la loi, tu transiges pas. Et moi, je te donne un chiffre. Tu vois, en 3 ans, personne nous a dit, ouais, s'il vous plaît.
Mettez une période.
Donc, en fait, tu vois, je te dis, c'est un faux débat. Je conçois que ça a du sens dans d'autres secteurs, mais en tout cas, nous, ça en est pas. Et en fait, on l'a fait aussi parce que notre raison d'être à nous, c'est de faire de l'innovation sociale, tu vois. Souvent, moi, quand je pitch Chaudo, je le pitch en disant que Chaudo, c'est une vision du monde du travail, c'est une vision de la redistribution, etc. C'est probablement, enfin, c'est une vision, tu vois, c'est un parti pris politique qu'on essaye de mettre en œuvre dans la société civile. Et en fait, notre raison d'être, c'est aussi de faire de l'innovation sociale. Donc, en fait, de faire bouger les lignes sur le plan de la PE, sur le plan des mesures inclusives et sur le plan aussi du rapport au temps de travail. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place les congés d'ancienneté limitée, par exemple.
Alors, les congés d'ancienneté, je voulais revenir juste parce que ça m'intéresse. Ouais. C'est souvent un sujet dans les boîtes qui est... c'est pas qu'il est complexe, mais qui cristallise un peu. Oh, parce si, que si, déjà, il y a une espèce de jalousie entre ceux qui ont plus de congés, ceux qui ont des RTT, ceux qui n'ont pas de RTT, machin, etc. Ceux qui sont cadres, non cadres, forfait jour, j'en passe, c'est des meilleurs. Comment cette. Alors, déjà, cette notion, elle est toujours transparente. C'est-à-dire qu'au-delà de la communiquer à tous les collaborateurs, vous la communiquez en dehors des collaborateurs, aussi auprès des clients, peut-être ou...
Notre modèle est public, donc on a rédigé un manifesto où tu as 30 minutes de lecture. Puis on essaie aussi assez régulièrement de faire des capsules, donc ça, des articles qui sont en 3 minutes sur notre site. Et en gros, donc dans notre modèle, on a par défaut, donc ça a été ratifié par le biais d'accords d'entreprise, mais on a une redistribution de congés supplémentaires où en fait, alors depuis cette année, parce que ça, avant c'était pas le cas, on a changé. Okay. Depuis cette année, tout le monde a 10 jours de CP supralégaux.
Okay.
Avant, dans la V1 du modèle, on avait fait 10 ans pour les seniors, 7 ans et demi pour les profils confirmés, 5 ans pour les profils juniors. Donc junior, je crois que c'est 0 à 3 ans, confirmé c'est de 3 à 7, et senior c'est 8 ans et plus.
Et là, donc, ils avaient des jours en plus, c'est ça, ils avaient une semaine en plus.
La Syntec, t'as 25 CP et 9 RTT. Ouais. Et maintenant, chez nous, tout le monde a 25 CP, 9 RTT et 10 CP en plus.
Ok.
Par défaut, sachant que dans notre modèle, nous redistribuons la marge excédentaire à un tiers en bonus financier, un tiers en CP et un tiers en temps libre professionnel, donc c'est-à-dire du travail non facturable. Et on a rajouté une surcouche.
Ça peut être formation, conférence.
Tu prends du temps libre, tu vas au turbin, tu factures pas.
Ouais,
tu vas voir tes collègues, tu vas préparer une conf, tu vas écrire un article, tu vas rien foutre. C'est autorisé chez nous. Le droit à la paresse.
Ouais, le droit de se reposer, de laisser son esprit vagabonder.
Voilà. Et on a rajouté du coup une surcouche avec le congé d'ancienneté illimité. Donc dans la V1 du modèle, à chaque année d'ancienneté supplémentaire, tu pouvais acquérir un jour de CP supplémentaire dans la limite de 5. Et cette année, on s'est dit, en fait, pourquoi limiter?
Parce qu'en fait, si d'ailleurs on travaille cette notion de turnover...
En fait, on s'est dit, nous en tout cas, dans la vision qu'on porte, on essaye de porter une vision dans laquelle on retravaille l'équilibre vie pro-vie perso, en essayant de ne pas être dogmatique, c'est-à-dire qu'en fait, on donne du temps libre. Ce temps libre, si tu veux te reposer, tu te reposes. Et si tu veux aller le bosser, en fait, il t'appartient. C'est-à-dire que la facturation, tu vas la récupérer, elle est pour toi. Mais donc, du coup, ça veut dire que potentiellement, demain, quiconque aura 15 ans d'ancienneté chez nous aura 15 congés supplémentaires en plus des 10 et en plus des 25 plus 9 de la Syntec.
Oui, et il pourra les prendre ou il pourra ne pas les prendre.
Voilà. L'idée, c'est, tu as plein de use cases. C'est, par exemple, quelqu'un qui vient d'enchaîner 50 missions avec pas beaucoup de congés pourra dire... je me casse 6 mois en congé sans perdre de revenus, etc. Et je vais me reposer. Ça peut être aussi de te dire qu'à un moment donné, si tu veux passer sur un 4-5e, peut-être que si tu as accumulé suffisamment de congés, tu vas pouvoir le faire sans perdre de revenus. Tu vois, c'est toujours ça l'idée, c'est de travailler moins, mais sans gagner moins. Voilà. Et puis après, il y a d'autres avantages aussi opérationnels qui nous arrangent, parce qu'en vrai, on est aussi là pour avoir un modèle qui soit symbiotique. Si par exemple, quelqu'un se fait sortir, ou quelqu'une, se fait sortir manu militari de mission, ça peut arriver. Et que en fait, on se retrouvait dans un rush opérationnel où il y a déjà pas mal de monde à placer. On est capable de dire, tu vois, Tim, si c'est toi, écoute, Tim, la sortie, elle n'était pas prévue. Je suis pas là pour savoir qui a tort ou qui a raison, mais il se trouve que tu arrives, c'était pas prévu, donc tu vas prendre 3 semaines de congé.
Ouais, c'est ça.
Tu vas te reposer.
Ouais.
Et dans 3 semaines, quand tu reviendras, on aura gagné 3 semaines de plus pour t'accompagner, etc.
Et on aura potentiellement une mission, etc., etc.
Et voilà. Et surtout, je considère pas que c'est privatif parce que les 3 semaines que tu prends, elles ne sont pas prises au détriment de ton enveloppe de congé. Ça t'empêchera pas de partir en août.
Oui, bien sûr.
Donc c'est un peu l'idée, quoi.
Il y a un rééquilibrage aussi là-dedans. Que effectivement. Parfois, il y a un certain nombre de boîtes où ils te disent on ferme de telle date à telle date et c'est comme ça. Et
c'est pas l'idée. Par contre, l'idée du modèle, c'est de se dire qu'on partage à la fois les pertes comme les profits.
Et alors, tu t'évoquais un truc un peu tout à l'heure en amont. Aujourd'hui, vous êtes en train d'essayer de faire un passage à l'échelle. Donc, il y a cette notion, effectivement, de croissance et de comment ça grandit. Et en fait, se pose la question aussi de se dire, je pense que, je ne sais pas si c'est sur toutes les langues des gens qui écoutent, mais de se dire, est-ce que l'intégralité de ces initiatives-là est en grande partie en impact sur à la fois la rentabilité et la productivité, sont-elles tenables à un modèle quand t'es 500, quand t'es 1000 ou quand t'es 250, bref.
En fait, reformulé différemment, on ne pourrait pas faire de mesures inclusives, on ne pourrait pas faire de congés d'ancienneté illimités ou parce qu'en fait, on donne aussi énormément de jours de création de contenu marque employeur. Par exemple, quand quelqu'un est pris pour devenir speaker ou speakeuse à une conf, on donne au moins 5 jours à chaque fois, tu vois, pour avoir le temps de faire ta création sur ton travail.
Bien sûr.
Mais en fait, toutes ces mesures-là, elles coûtent un fric fou. Et si on était resté... aujourd'hui, tu vois, on est sur la maison mère, on est 56 salariés, je crois. Si on était resté 56, jamais de la vie, on sera en capacité de financer toutes ces mesures-là.
Okay.
Et donc, c'est notre passage à l'échelle qui nous permet de pouvoir avoir une surface financière qui finance des mesures d'innovation sociale. Donc, tu vois, on le fait aussi pour ça. On le fait aussi parce que... ça, j'avais dû t'expliquer, mais... quand on s'est créé, au début, on a dû fournir suffisamment de preuves sociales pour montrer que notre modèle, il était viable. Nous, on était persuadés avec Guillaume qu'il était viable. Moi, ça faisait 15 piges que j'étais dans le conseil.
On va être convaincu et
voilà.
Mais
convaincu les autres, voilà. Ouais. Et en fait, on a eu un bref passage. On a nourri un paradoxe où on se disait « Ah, tiens, quand même, c'est cool, on se paye, tout va bien. » Et en fait, on veut être un speakeasy. En fait, on veut vivre caché pour vivre heureux. Et puis, en fait, au fond de nous, on a quand même une démarche
hyper militante. Il y a plein de boîtes. Hein. Moi, il m'arrive de trouver des boîtes qui font de l'innovation sociale ou de management et qui disent, en fait, moi, j'ai pas envie d'en parler. Je m'en fous, je vis dans mon truc et puis c'est pas mon
sujet. On avait quand même envie de changer le game.
Ouais.
Tu vois, je veux dire, faut quand même se l'avouer. Et quand tu veux changer le game et que t'es pas connu et que tu restes dans ton garage, tu changes pas le game.
Non.
Donc, en fait, ça a été l'occasion de faire que tu as donné plus de visibilité au modèle. Ça a été l'occasion de faire kiffer plus de clients parce qu'en fait quand tu te déploies tu vas pouvoir accompagner davantage de clients que quand tu te déploies pas, t'intègres plus de salariés dans un modèle dont on est fier, tu donnes l'occasion à davantage de mandataires sociaux de pouvoir incarner ton modèle. Et nous, ce qui nous intéresse aussi dans cette démarche là c'est de faire péter des plafonds de verre. Donc en fait, on fait monter à la gouvernance des profils tech, tu vois, des mecs et des meufs qui sont pas du tout prédestinés pour diriger des boîtes.
C'est terrible à dire, mais on n'a pas l'habitude de voir ça sur des sur du niveau
connect. Et puis on essaye aussi d'avoir une meilleure représentativité au sein des fonctions dirigeantes. Donc on essaye aussi de faire monter des meufs, tu vois. Laurie est devenue DG de la maison mère alors que sur le papier elle a pas le profil, elle est issue des fonctions de com.
Ouais,
ça n'arrive jamais ça. Et puis elle a à peine 30 piges et elle venait d'être maman. Mais en fait elle avait la légitimité pour, le profil pour, tout ce qu'il faut pour. Bon bref, hein, tu vois, on essaie de faire des choix comme
Et puis il y avait peut-être aussi à la pousser pour que justement elle se positionne sur un truc comme ça, elle se dise
elle avait quand même, tu vois, elle est là depuis le début, elle est méga légitime, elle prend sa part, tu vois, je pense que
c'est une personnalité historique de Chaudeau.
C'est une personnalité historique de Chaudeau, mais surtout elle a tout ce qu'il faut pour remplir toutes les cases très très rapidement. Je pense que dans notre cas, il y a plein d'autres dirigeants qui seraient allés chercher un profil à l'extérieur. Mais nous, la question s'est pas posée.
Tu vois, moi, ça, c'est un truc, c'est mon side discussion. On va pas passer trop regarder dessus, mais souvent là, quand je discute là dans des boîtes que j'accompagne, ils nous disent nous, c'est une fois par an. Le manager, il a un entretien annuel avec le collab et il lui expose les aspirations qu'il voit pour lui. Et en fait, ça laisse pas la place, au collab pour se dire, mais en fait, moi, j'attends pas juin, j'ai envie d'évoluer dès maintenant. Et puis, parfois, c'est aussi proposé sans que le collab l'ait identifié, de se dire, en fait, moi, je suis sûr que t'es en capacité de partir à gauche ou de partir à droite ou en haut, etc. Et je trouve que cette notion de, pas de proactivité, mais de prise de risque sur l'évolution de la fonction et de la responsabilité, elle est hyper importante.
Non, mais je partage. Tu vois, il y a deux cas de figure différents. Loris, c'est nous qui lui avons proposé cette évolution-là, parce que ça nous tenait à cœur. Et à l'inverse, on a Julien Topsu, qui... Vas-y, je vais le flatter, hein. C'est une rockstar de la tech, le gars. si tu veux, lui, il est venu nous demander d'avoir plus de responsabilités, etc. Donc, c'est canon de pouvoir justement cultiver une proximité qui fait que tes membres, ils sont en capacité d'aller te demander des choses. Mmh. Et tu vois, donc on a créé un rôle sur mesure. Il est depuis janvier VP Tech. Du groupe de tout le groupe, donc ça veut dire
qu'il était un rôle qui n'existait pas.
C'est un rôle qui n'existait pas. Alors on a fait évoluer son rôle. Avant il était DevRel, donc DevRel c'est tu vas représenter la fonction tech dans le cadre de conf. Tu vois, lui c'est un speaker national, international. Je pense qu'il doit faire, je sais pas, 50-60 jours de conf par an, c'est une dinguerie.
Ok, ouais, c'est cool.
Mais ça nous rapporte tellement en termes d'image, de crédibilité, etc. Enfin, moi, c'est une fierté de l'avoir dans le groupe. Là, VP Tech, l'idée, c'était aussi de lui donner une fonction représentative auprès de membres du COMEX, de nos clients. Parce que parfois, tu as besoin aussi d'avoir un titre pour avoir la crédibilité, pour aller échanger avec des DSI, des CTO, etc. etc. quoi. Donc en fait, on l'a fait. Ouais. Et dans notre rôle, on est dans notre culture, pardon, on essaye toujours à partir du moment où on fait des choses pour une personne, de dégager des critères d'acceptation suffisamment transparents et clairs pour que quiconque qui atteindrait les mêmes critères puisse prétendre au même rôle.
En tout cas, c'est très très chouette. Je me pose une autre question aussi qui est un peu liée à ça. C'est tout à l'heure, tu disais, quand un collaborateur qu'on recrute chez nous, il sait un peu dans quoi il s'engage.
Ouais.
Finalement, c'est assez facile. Enfin, ouais. C'est pas que c'est facile, mais ce que je veux dire, c'est que souvent dans les boîtes, il y a le premier truc qui est souvent, on te dit qu'il va être bien, mais qui est un peu foireux, ouais. C'est l'onboarding.
Oui.
Tu vois, et du coup, toi, est-ce qu'il se passe différemment? Est-ce qu'en fait, c'est plus facile? Parce que du coup, comme vous communiquez à l'extérieur, t'es vraiment obligé d'être fidèle à ce que vous communiquez sur ce que tu vis à l'intérieur, tu vois?
Alors, je pense qu'effectivement, le fait qu'on ait une démarche d'inbound marketing aide vachement à connaître l'entreprise et sa culture, la découvrir en tout cas avant d'avoir postulé. Mmh. Par contre, il y a aussi autre chose qu'on a fait, sur lequel on a quand même beaucoup investi en 2022-2023, c'est qu'on a notionisé notre culture. Donc en fait, on est passé sur une culture de l'écrit. C'était un travail méga fastidieux parce que on a rédigé une documentation vivante de ce qu'est Shodo. Donc tu vois, pour ceux qui connaissent pas l'outil, c'est une sorte de base de données un peu jolie où tu as des onglets par thématique, des index. Par exemple, t'as un index sur la culture inclusive de Shodo, des index sur la communication chez Shodo, sur les process commerciaux, sur la santé mentale. Par exemple, tu vois, on a mis à disposition gratuitement la plateforme Mocacare à tous nos membres. En fait, tout est expliqué, rédigé.
Tu peux avoir un annuaire simple, tu peux avoir la façon dont se vit les réunions, etc.
Toutes les questions qu'un jour on s'est posées, elles ont été consignées dans Notion, justement pour éviter de devoir expliquer à une fois la même question. À un moment donné, tu as des variantes, etc. Alors après, ça pose un autre enjeu qu'on n'a pas encore commencé à tacler, mais sur lequel il va falloir qu'on se penche assez vite. C'est que à partir du moment où tu as de la documentation vivante, il faut la maintenir. Parce que tu vois, là je t'ai parlé tout à l'heure du fait qu'on est passé sur une V2 du modèle, sur les congés, etc., les congés illimités. Très probablement que ça n'a pas été mis à jour, donc il va falloir le mettre à jour.
Ouais, mais alors ça, moi j'ai quand même une théorie encore fumeuse là-dessus, mais si tu veux, aujourd'hui vous êtes 50, donc je trouve que c'est pas forcément un problème si c'est une, deux, trois personnes qui s'en occupent.
Ouais.
Quand t'es 500, quand t'es peut-être 250, etc., en fait, moi c'est le côté de responsabilisation du collaborateur, c'est-à-dire qu'en fait, la responsabilisation de l'évolution de l'outil et l'évolution des pratiques, elle doit appartenir à tous les collaborateurs, peut-être des collaborateurs individuellement ou des groupes de collaborateurs, mais qui doivent dire, en fait, oui, c'est vrai que ça, ça a été, faut pas oublier qu'on va vivre quelque chose de différent. Donc, oui. Je viens le documenter aussi, en fait.
Ouais. Alors, dans les faits, oui. Ensuite, nous, je peux t'expliquer comment on a mis en place toutes ces initiatives-là. On avait fait une journée de gamification fin 2022, si je dis pas de conneries, dans laquelle on avait gamifié que Shodo se cassait la gueule.
Ok.
Et
c'est drôle.
Ça, ouais, bah en fait.
Bah, c'est drôle ou pas, mais en tout cas, c'est un bon exercice.
Bah, en tout cas, c'était intéressant parce que ça a fait émerger des craintes, des thématiques sur lesquelles on devait faire mieux. Mmh. Et entre autres, ça nous a permis déjà, t'es dans une forme de résonance collective où tu réfléchis sur tes enjeux collectifs. Et donc ensuite, on a donné suite à cet atelier-là, 2 mois plus tard. En dégageant justement des plans d'action. Donc en fait, ça crée des cercles par thématique. Et en fait, là, tu te rends compte que tu passes d'une dynamique où tu as toute la boîte qui réfléchit à une dynamique où tu n'as plus que les doueurs qui sont là. Et en fait, les doueurs, ce sont celles et ceux qui ont envie de faire bouger les choses.
Ouais.
Et pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus sain d'avoir une orga dans laquelle tu laisses émerger des doueurs. Plutôt que, tu vois, moi je m'attends pas à ce que tout le monde ait le même niveau d'investissement, etc. Par contre, je suis content que d'avoir des gens qui puissent se proposer d'aller rédiger toute la culture d'entreprise de la boîte dans Notion, d'aller animer un cercle sur la gouvernance d'entreprise, d'aller animer un cercle sur la formation interne, ouais. Toutes ces choses-là. C'est plutôt ça, nous, je pense, dont on doit être le garant avec Guillaume puis tous les autres mandataires sociaux, quoi, tu vois.
Ok. Ouais, mais après, alors moi, là où je rebondis, c'est qu'il y a pas très longtemps, j'avais un exemple où il y a quelqu'un qui me dit, ouais, moi j'ai cette idée-là, je pense que c'est ça qu'il faut mettre en place, etc.
Ouais.
Et je dis, bah, il y a plus qu'à, tu vois. Enfin, il y a ouais. plus qu'à en l'occurrence, mais il faut quand même bosser un peu derrière. Et c'est là où tu passes d'idée à doueur. Et il me dit, en fait, moi, j'ai pas envie de le faire pour des raisons qui sont des questions de temps, peut-être des questions de légitimité, mais du coup de l'importance de dégager du temps aussi, qui est l'ennemi numéro 1.
Si tu donnes pas de moyens, on pouvait pas s'attendre à ce que les gens rédigent la culture Shodo sur Notion sur leur temps libre le soir et le week-end, tu vois.
Ouais,
en fait, t'es obligé de donner du temps, ça te coûte de l'oseille. En fait, c'est ça le finalement à chaque fois qu'on fait des initiatives. Nous, on est en capacité de redistribuer du temps parce que ça fait partie de notre ADN hein, de redistribuer. Mais effectivement, tous ces moyens-là, et j'en reviens, tu vois, à une des questions que tu m'as posées tout à l'heure, c'est aussi grâce au passage à l'échelle que tu vas te procurer des moyens supplémentaires pour cheminer.
Ouais. Super. Et du coup. Une fois qu'on a dit ça, on était en novembre 2022, ça a bien avancé, on est en fin mars 2023, l'épisode sera... 2024, pardon, ouais. Le mec est bloqué dans le passé. L'épisode sera diffusé, je pense, début avril.
Ouais.
Quelles sont les prochaines étapes, au-delà de cette notion d'évolutivité dans l'échelle ? Est-ce qu'il y a d'autres choses dans les... Pas dans les tiroirs, mais c'est quoi les ambitions des prochaines semaines, des prochains mois ?
En fait, on est sur... Alors, on a deux chantiers. Le premier, il est toujours dans ce passage à l'échelle-là. En fait, on a un passage à l'échelle qui est plus rapide que prévu parce qu'on a des sollicitations. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure en off. En fait, on a des profils... parfois, c'est souvent des membres de la direction d'ex-concurrents qui viennent nous trouver et qui viennent discuter avec nous. Et en fait, comme avec Émilie, on est face à un dilemme.
Et qu'on vient de venir bosser, quoi.
Ah ouais, en fait, tu vois, la fenêtre, elle est là. Si tu la saisis pas, peut-être que le train ne repassera pas. Bon, bref. Et donc, du coup, on se pose la question de comment est-ce que...
Comment t'accueille ça, quoi.
Ouais, en fait, donc l'organisation d'avoir... comment est-ce que tu peux, avec Guillaume, comment est-ce qu'on peut formaliser un accompagnement qui soit super carré de nos mandataires sociaux. Comment est-ce qu'on peut muscler l'organisation, tu vois, tout à l'heure, je te disais qu'on avait une head of HR, head of sales, head of communication. On se pose la question aussi à terme de faire venir une head of market de vente.
Alors moi, j'ai la notion de head of, je l'avais dans une boîte que j'ai eu précédemment, on l'avait multiplié Il y avait des avantages, il y avait quelques inconvénients aussi.
Ouais, mais non, mais alors je pense qu'il n'y a pas d'organisation parfaite. Ce qu'il faut, c'est d'être très à l'aise avec ses propres imperfections. Mmh. Mais en fait, on a déjà une limitation en termes de budget. Donc en fait, ouais, à chaque fois qu'on fait entrer ces profils-là, faut qu'on soit en capacité de créer du revenu supplémentaire. Mmh. Donc ça doit souvent être des profils mixtes. Tu vois, par exemple, si demain on réfléchit sur market de vente, ça, c'est quelqu'un qui doit être en capacité de générer du business.
Ouais, bien sûr.
Sinon, ça marche pas.
Normal. Ouais, complètement.
Voilà.
Complètement.
Parce que c'est aussi comme ça que tu acquiers une légitimité, c'est en rapportant aussi des moyens. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le second chantier, là, sur lequel on doit finaliser à très court terme, c'est que tu sais qu'on a ouvert le capital de la maison mère à tous nos salariés. Mm-hmm. On l'avait mal fait d'ailleurs, mais bon, bref, on a retombé sur nos pieds. Mm-hmm. On est en train de finaliser l'ouverture du capital de toutes nos filiales à tous nos salariés de filiales, mais avec un mode, tu vois, en fait, on
quelles sont les modalités?
Ben, les modalités
BSA, BSPCE ou pas?
Non, du tout. En fait, on est en train de créer une SAS, donc une holding, qui détiendra en propre 19% du capital de chaque filiale.
Okay.
Et en gros, l'idée, tu vois, au début, on se disait, ben, en fait, les salariés de Chaudonnante, ils vont détenir du capital de Chaudonnante. Puis on s'est dit, non, c'est moisi, ça. Parce que ça veut dire que demain, quand
non, c'est pas moisi, mais tu peux voir un peu plus gros, quoi. Ouais,
mais non, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, le but de la croissance, c'est que ça doit être une bonne nouvelle pour tout le monde. À partir du moment où c'est plus une bonne nouvelle pour tout le monde, c'est qu'il y a un problème dans ton modèle. Ouais. Et donc, nous, on se disait, ben, en fait, demain, quand t'es salarié, actionnaire de Chaudonnante, quand t'arrives Chaudolille, tu t'en branles. Mmh. Ah ouais, c'est bonne nouvelle, super, mais en fait, moi, ça,
oui,
j'enverrai pas la couleur.
Ça vire
et ça silote
un peu.
Et ça silote, ouais, tout à fait.
Exactement.
Donc, en fait, on s'est dit, on crée une holding qui va nous permettre de mettre en œuvre de manière plus vertueuse la logique de solidarité qui nous tient tant à cœur. Donc, en gros, par exemple, je reprends l'exemple, t'es à Chaudonnante. Si, par exemple, tu fais pas une bonne année à Nantes, mais que le groupe a fait une bonne année, eh ben, tu peux bénéficier de retombées en termes de redistribution, en termes de dividendes, etc. Et ça crée aussi une forme de connexion entre membres de Chaudo et ses filiales. Donc en fait, c'est ça qu'on est en train de mettre en œuvre. C'est une putain de galère pour notre avocate. Parce que.
Ouais, mais elle a du taf depuis 3-4 ans, elle s'est
ouais,
les cheveux, mais.
Non, mais
elle est canon.
Elle s'en pas. Elle est canon. On lui tresse sans arrêt des louanges. Mais tu vois, ça fait partie dans les couples, dans l'entrepreneuriat. Avoir un conseil de confiance, c'est priceless et nous, c'est notre cas, quoi.
Et alors, je te taquine un peu volontairement, mais je dis en fait, cette innovation là n'en est pas vraiment une, parce qu'en fait, l'autre jour, je discutais avec un mec qui me disait ouais, mais en fait, moi, les primes individualisées dans les boîtes, c'est pas notre sujet. Nous, en fait, quand la boîte marche, tout le monde a des primes. Et puis voilà, on découpe pas. Et donc, en fait, ça, tu l'as fait au niveau capitalistique et au niveau des structures. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de le réinventer un peu.
Alors, on l'a fait à plein d'endroits. Là, je vais digresser, mais par exemple, dans nos profils staff, on a des profils qui sont cœur de métier. Donc, tu as des cœurs de métier com, tu as des cœurs de métier RH, tu as des cœurs de métier sales. Néanmoins, on a fait le choix que tout le monde ait le même salaire fixe à un niveau d'expérience égal. Et ça veut dire aussi qu'on a fait le choix. Par exemple, Lucie, qui est Head of Sales, quand elle gagne des projets, elle n'a pas de variable indexée sur la marge qu'elle génère ou les projets qu'elle gagne.
Okay.
Parce qu'on ne voulait pas créer de billets, parce qu'on ne veut pas que... Enfin bref, ça serait trop long à expliquer. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a mis en place des variables qui sont établies sur des critères globaux de la boîte. C'est-à-dire, quand la boîte va bien, tout le monde a le même variable, un variable d'équipe.
Mmh.
Voilà. Ça, c'est pour le quand la boîte va bien, tout le monde touche. Nos membres, ils récupèrent en moyenne 85% de leur chiffre d'affaires, toujours sur cette même logique. Hein, c'est-à-dire que quand ils ont produit du chiffre d'affaires, ils ont de la marge excédentaire. Quand ils sont en deçà de ce qui est prévu par le modèle, en fait, ils n'ont pas d'excédentaire, mais la boîte va pas bien, quoi. Et en fait, ce formalisme capitalistique, il est pas tant sur la redistribution de la valeur, on va dire, instantanée, parce qu'effectivement, tu as plein d'autres mécanismes qui te permettent de redistribuer la valeur chaque année, mais il est aussi sur la valorisation de la boîte. En fait, nous, ce qu'on voulait, c'est que si un jour il y a revente, on voulait que celles et ceux qui se sont arrachés pour créer de la valeur à
côté,
aussi
les architectes de la succès de la boîte, bien évidemment.
C'était ça.
Ouais, ça, je trouve que c'était. Non, moi, j'ai toujours eu cette théorie-là en me disant. pourquoi un collaborateur qui s'est un peu défoncé pendant 4 ans pour une boîte, en fait, quand tu revends la boîte, il peut pas s'acheter un appart. Je te dis une bêtise, mais il y avait ce côté-là.
C'est l'idée. Et en fait, j'ai même allé plus loin. C'est même un collaborateur, une collaboratrice qui s'est pas défoncé. Parce que tu sais, c'est toujours l'histoire des 3%.
Dans la logique des 3%.
Quand tu responsabilises les gens, la plupart, ils vont s'arracher. Et si t'en as dans le lot qui le font pas, eh ben c'est la vie. En fait, c'est comme ça.
Je suis entièrement d'accord. Ça touche à sa fin. Il y a quand même toujours une question que je pose à la fin. J'espère que tu l'as pas préparée parce que je t'ai pas absolument pas envoyé les questions. Je te connais, t'as pas besoin de ça. Est-ce que t'as une anecdote justement sur cette année écoulée ou plus récemment, une bonne ou une mauvaise expérience que t'as envie de nous partager qui te vient en tête?
Ouais, ben en fait j'en parle assez facilement parce que elle a moins d'un an. Tu vois, en fait. J'aime bien me flageller en plus avec celle-là parce qu'on a vraiment été idiots. Mais quand on a créé Chaudo assez rapidement, on s'est dit on va ouvrir le capital à tous nos salariés. Mmh. Tu vois. Donc on crée Chaudo en 2019. En 2020, on se dit on va ouvrir le capital. On le communique à tous nos membres. À l'époque, on était 25. Tu vois. Mmh. Et donc on dit on va ouvrir le capital à nos 30 premiers membres.
Mmh.
Là, c'est incroyable. Il y a très peu d'initiatives dans. Tiens, en fait, on leur annonce en plein séminaire. C'est un moment assez magique, suspendu hors du temps, entre celles et ceux qui comprennent ce que ça veut dire et celles et ceux qui comprennent pas du tout, parce que c'est abscon en fait d'être associé.
Ouais,
bon bref, on fait le truc. Juin 2021, on entérine la décision. Donc tu as tout le monde signe ses bons de souscription, etc. Et puis arrive 31e, 32e, 35e, 40e salarié. Et en fait, on se rend compte que comme Donigo et Guillaume, on a créé une boîte à deux vitesses. Et là, là, c'est une dinguerie. Tu vois, moi, je suis super mal. Je me dis, putain, mais comment est-ce qu'on peut changer le truc? Et en fait, on regarde dans le pacte d'associés qu'on avait rédigé. Et la seule manière, c'est de faire dilution via augmentation de capital. Sauf que chaque associé doit, à l'unanimité, accepter de se diluer.
Wow.
Ça veut dire que
avoir moins de.
T'as une seule meuf ou un seul mec qui te dit, je suis pas d'accord.
Le truc saute.
Le truc saute. Et donc là, ça nous a pris, ça nous a quand même pris du temps pour, tu sais, expliquer avec pédagogie, expliquer que c'est le sens de l'histoire que nous on l'a fait. Mais t'es sans filet.
Ouais.
Et t'es sans filet et t'es super mal parce que si le truc capote.
Tu viens un mauvais moment là.
Si le truc capote, t'es mal pour tous les autres qui sont pas dans le game, quoi. Bon bref, ça s'est bien fini. Et on l'a entériné en juin 2023, etc. Mais bon, voilà, c'était pas une anecdote.
C'était pas forcément un bon moment à passer.
Non.
Mais avec le recul, tu donnerais quoi comme conseil du coup à quelqu'un qui se dit en fait j'ai envie de le faire nativement et avant de se lancer peut-être dans le truc.
En fait. Tu vois, quand je me flagelle, je me dis qu'on n'a pas vu plus loin que le bout de notre nez.
Okay.
Mais en vrai, c'est pas ça. C'est que je pense que, tu vois, nous, on explore un chemin, chemin qui est peu défriché. Et c'est compliqué de savoir, tu vois, quand on a décidé d'ouvrir le capital, je pense qu'on n'avait aucune idée du fait que on allait avoir autant de demandes, autant de, entre guillemets, que le modèle allait avoir autant de succès. Donc on n'avait pas décidé de passer à l'échelle, de scaler avec des filiales, etc. Si on avait pu voir très loin dans l'évolution de notre boîte, je pense qu'on l'aurait intégré dès que possible dans le schéma d'ouverture.
Bien sûr.
Mais nous, on a à chaque fois dû pivoter, etc. Et c'est vrai, quand tu pivotes, à un moment donné, et ça, c'est ce que nous dit souvent notre avocate, c'est que c'est aussi le jeu que celles et ceux qui étaient les pionniers, les pionnières, aient des conditions un peu meilleures que celles et ceux qui arrivent après.
Oui, bien sûr.
Et nous, ça nous titille vachement parce que on a quand même un désir d'équité. Et du coup, tu dois trouver le juste équilibre entre l'égalité et l'équité.
Je suis d'accord. Et on en parlait avant même de commencer pour un autre sujet, mais je suis d'accord.
Voilà.
Ça peut être vite complexe là-dessus et assez prise de tête.
Donc, la conclusion, c'est que je suis super content qu'on ait pu trouver une solution et un compromis. Maintenant, c'est sûr que si j'avais une baguette magique et je pouvais embobiner l'affaire, dès le début, on ferait différemment, quoi.
Ouais.
C'est sûr.
Bon, pour ceux qui ont envie de se poser des questions, n'hésitez pas à harceler Jonathan sur LinkedIn et lui poser plein de questions. Il s'engage à vous répondre.
Avec plaisir.
Et la dernière question avant de te laisser, est-ce que tu as une roco, un film, un livre, un podcast, autre, quelque chose, un docu qui t'a parlé et qui t'a aidé à réfléchir justement ou juste qui t'a inspiré?
Non, là, tu me prends. Tu vois, je vais étaler mon inculture du moment. Non, j'ai pas de. Enfin, si, mais enfin, tu vois, moi, les gens qui les entrepreneurs, entrepreneuses qui m'inspirent, c'est toutes les personnes qui font de l'innovation managériale, RH. En fait, tu vois, on a parlé en off de Nicolas qui fait du recrutement
Nicolas des typiques ouais,
voilà
Morbi, bien
dans
sûr.
La rue je trouve ça
ouf, sourcing, c'est extraordinaire.
Je suis aussi très très inspiré par ce que fait un Edouard Pic chez Clinitex en termes de négociation salariale, de transparence et d'autonomie, mais en fait, moi, ce qui m'anime, si tu veux, c'est aussi de documenter notre aventure, de fournir des preuves sociales, parce qu'en fait, je constate, et c'est ça qui me fait vraiment kiffer, c'est que il y a toute une génération d'entrepreneuses et d'entrepreneurs qui s'approprient tout ou partie de notre vision et qui commencent à entreprendre autrement. Et moi, c'est ça qui me tient à cœur, en fait.
Ouais, mais je trouve, en fait, moi, c'était la mission que je m'étais fixée avec le podcast il y a 2 ans, etc. C'était de se dire, ceux qui ont envie de se lancer pour le faire nativement.
Ouais.
Et en fait, c'est l'inverse de l'école. En fait, si on te copycat, tu t'en fous complètement parce que tu dis, putain, c'est ça qui est génial.
Mais c'est même surtout, copiez-nous et faites mieux.
Ouais.
Il n'y a pas de problème.
Ouais, ouais.
Tu sais, je ne peux pas avoir de baguette magique pour phagocyter tout le marché. J'en ai pas envie parce que j'aurais trop de problèmes à gérer opérationnellement parlant.
Bien sûr.
Mais en fait, j'ai surtout. Tu vois, je sais que ça ne m'empêchera pas de manger, ça ne m'empêchera pas d'être heureux, d'avoir c'est même pas des concurrents, mais d'avoir des acteurs économiques qui vont faire comme nous, tu vois.
Écoute, Jonathan, merci d'être venu.
Merci Tim, c'est canon, c'est passé encore super vite.
Ouais, c'est passé vite, je ne sais pas à combien de temps on est, je pense une heure et quart, quelque chose comme ça. On va pouvoir enchaîner tranquillement sur un bon déjeuner peut-être.
Eh ben, avec grand plaisir.
En tout cas, merci. Bien évidemment, c'est inspirant. On a hâte de voir la suite. Je pense que l'épisode où ce sera plus toi qui viendra dans un an, je l'espère, non mais sans méchanceté aucune, mais ce sera quelqu'un de Lille, ce sera quelqu'un de Nantes, ce sera peut-être quelqu'un de Tourcoing, je sais pas.
Ou
mais
ce sera Laurie.
Ce sera Laurie, ça pourrait être Émilie, ça pourrait être
avec grand plaisir.
Plein d'autres gens, et peut-être aussi un peu Guillaume.
Ouais.
On pourra faire quelque chose d'un peu plus collectif, mais en tout cas, c'était hyper chouette.
Lui, Jack, t'es derrière le micro, c'est pas son délire, je crois.
Ouais, je sais, bon, t'inquiète, avec moi, ça devrait aller. Mais en tout cas, merci beaucoup. Félicitations encore pour cette
merci
aventure
beaucoup.
Qu'on suit prêt.
Merci,
et puis, on a hâte de voir la suite. Et puis, on espère que ce sera un succès, encore comme aujourd'hui.
J'espère aussi. Merci, Tim.
Merci,
à
bonne
bientôt.
Semaine.
À ciao. Bientôt.
Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine !